Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose toutes les connaissances utiles à une vie bonne et heureuse. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, de vous aider à mieux vous connaître et surtout de vous faire du bien. Notre parti pris est de partager avec vous des savoirs ayant un impact positif sur l'homme et le vivant. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, nous accueillons le médecin nutritionniste Jacques Ricoeur et le médecin cardiologue Patrick Assiag, les auteurs du livre « Prenez votre cœur à cœur » paru récemment chez Odile Jacob. Dans ce podcast, les auteurs expliquent pourquoi et comment une alimentation saine plus de l'activité physique sont essentielles à notre santé. Docteur Jacques Ricoeur et docteur Patrick Assiag, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci pour votre invitation.
Alors, on vous reçoit à l'occasion de la sortie de votre livre « Prenez votre cœur à cœur » que vous avez écrit à quatre mains, paru aux éditions Odile Jacob.
Exact, oui.
Alors, docteur Jacques Ricoeur, vous êtes médecin nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris, chercheur en nutrition humaine à l'INSERM.
J'ai été chercheur.
D'accord.
Je suis plus chercheur. J'ai fait 10 ans de recherche à l'INSERM. Je ne suis plus chercheur, mais j'étais chercheur actif, oui.
D'accord. Docteur Patrick Assiag, vous êtes médecin cardiologue en libéral, praticien attaché à l'hôpital de Saint-Antoine à Paris et président du syndicat des cardiologues de la région parisienne et ancien vice-président de la Fédération française de cardiologie.
Tout à fait exact.
C'est ça. Alors, donc je le disais tout à l'heure, on vous reçoit à l'occasion de votre livre « Prenez votre cœur à cœur » aux éditions Odile Jacob. Déjà, je voulais vous remercier pour ce livre, puisque je l'ai trouvé très utile. Moi, à titre personnel, j'ai appris plein de choses intéressantes que je voulais partager aujourd'hui avec les auditeurs lecteurs de Blooming You. Donc, on le sait, hein, avoir un bon cœur est indispensable à la vitalité. En France, un quart des décès sont provoqués par les maladies cardiovasculaires, hein, c'est ce que vous dites dans votre livre. C'est la deuxième cause de mortalité chez l'homme, juste derrière les cancers. En revanche, c'est la première cause de mortalité chez la femme. Ça, c'est énorme, je ne m'y attendais pas.
Non, c'est étonnant, hein. C'est étonnant, effectivement. La plupart des femmes pensent au cancer du sein ou
au maladie cardiaque. Ah, exactement.
Les Françaises meurent près de 7 fois plus de maladies cardiovasculaires que de cancer du sein.
Ouais.
Quand elles ne tuent pas, les maladies cardiovasculaires provoquent de nombreux handicaps, comme des hémiplégies ou la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est pareil, on n'associe pas forcément le cœur avec Alzheimer, parce que l'Alzheimer, c'est le cerveau. Donc on se dit,
oui, mais il y a des artères dans le cerveau.
Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que dans nos modes de vie automatiques, on ne fait pas forcément
Absolument.
Ouais. Ce qui frappe beaucoup, excusez-moi, c'est 400 décès par jour de maladies cardiovasculaires. 400 décès par jour. Hein. Ça marque les esprits. Hein.
C'est plus que le Covid aujourd'hui.
Ouais, exactement.
Alors, dans votre livre, vous dites pourquoi et comment une alimentation saine et l'activité physique sont essentielles à notre santé. Vous mettez aussi en garde contre les mauvaises habitudes comme le tabac, la cigarette électronique, les drogues ou encore le stress au travail, le manque de sommeil ou l'anxiété, qui sont des maladies de civilisation, enfin, je veux dire, qui touchent…
Alors, la cigarette électronique, c'est moins bien que ne rien fumer, mais c'est mieux que le tabac.
D'accord.
C'est une arme contre le tabac, mais c'est encore mieux si on peut se passer des deux ensuite.
D'accord. Alors, sur la cigarette électronique, on en parlera plus tard, effectivement, sur les mauvaises habitudes, enfin, comme l'alimentation. Vous mettez beaucoup l'accent sur la nécessité d'avoir une alimentation saine. Vous faites par ailleurs l'éloge du régime japonais et des effets protecteurs du thé vert. Quels sont le régime qui protège le mieux nos cœurs et notre cœur, pardon.
Si on prend les modèles alimentaires qui existent dans le monde, celui qui est le plus protecteur, c'est celui le méditerranéen, et notamment le régime crétois. C'est le japonais, pas mal non plus, mais le plus proche de nos habitudes, nous français, c'est quand même le méditerranéen, le crétois, qui est une alimentation excellente, qui est également optimale avec le régime DASH contre l'Alzheimer. Il y a des études qui ont été faites récemment qui associent les deux d'ailleurs. Donc, l'alimentation méditerranéenne est optimale et mieux que l'alimentation végétarienne. Et on va pouvoir détailler, mais l'alimentation méditerranéenne, c'est basé sur des aliments d'origine végétale, des légumes secs, des aliments complets, des fruits, des légumes, des noix, des fruits à coque, éventuellement des fruits secs, de l'huile d'olive, mais aussi des aliments d'origine animale, notamment le poisson et les volailles, plus souvent que la viande rouge. Mais il y a quand même une base d'aliments végétales. Et puis, à petite dose, et ce n'est pas indispensable, mais c'est possible si on a l'habitude et si on sait maîtriser, un verre de vin par jour n'est pas mauvais pour le cœur, en sachant que dès qu'on boit plus, il y a des risques importants, aussi bien pour le cœur que pour le cerveau, pour le foie, etc. Donc, c'est à double tranchant. Mais sinon, la base, c'est vraiment une alimentation avec des aliments complets, des légumes secs, des fruits, des légumes, de l'huile d'olive, des fruits à coque, comme les noix, les noisettes, les amandes, et une petite part donc d'aliments animaux, mais régulièrement, notamment volailles et poissons, les poissons ayant pas mal de vertus au plan cardiovasculaire.
C'est quoi la fréquence aujourd'hui, je veux dire, quelle proportion de végétal versus
l'optimal? Je dirais que ça serait au moins 2/3 de végétal par rapport à l'animal, au moins. En fait, il faut que l'assiette soit avant tout composée d'aliments d'origine végétale et qu'il y ait un petit peu de viande, un petit peu de poisson. Quand on souhaite maigrir, quand on a besoin de maigrir pour des raisons d'obésité, pour des raisons de santé, qu'on a besoin d'aller assez vite parce que parfois pour des raisons médicales ou pour des raisons personnelles, on a besoin de perdre vite du poids, là, on peut prendre plus de protéines animales et moins de protéines végétales. Mais à long terme, pour stabiliser son poids et pour être en bonne santé, la base de notre alimentation devrait être végétale, tout en étant omnivore, hein, encore une fois. Le régime végétarien, ou tout du moins le régime végétalien ou le régime vegan, entraîne des carences. Donc, on a quand même intérêt à avoir une petite part de protéines animales. Les produits laitiers également. Les produits laitiers, notamment les produits laitiers fermentés, comme les yaourts, comme les laits fermentés, sont protecteurs, sont intéressants. Hein. Contrairement à ce qu'on dit souvent, ce sont des produits intéressants qui réduisent le risque cardiovasculaire.
Alors pourquoi on les attend? Pourquoi ils sont tant décriés aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que…
Parce qu'il y a des modes. Parce qu'il y avait, il y a 30 ans, on disait que le lait, les produits laitiers, c'était génial et ça servait à tout. Et puis, il y a une mode dans le sens inverse en disant que ça cause le diabète, l'eczéma, les problèmes articulaires, etc. En fait… Les produits laitiers sont bénéfiques en termes de prévention de l'ostéoporose, sont bénéfiques notamment pour les produits fermentés comme certains fromages et comme les yaourts pour le cœur et pour la santé en général. On n'a pas besoin d'en manger beaucoup. On peut en manger 2-3 et ça suffit par jour. Et puis, si on n'aime pas les produits laitiers, on peut ne pas en manger. On peut être en bonne santé sans manger de produits laitiers. Voilà. Mais si on les aime, il n'y a aucune raison de s'en passer.
D'accord. Je voudrais interroger Jacques sur les légumineuses, parce que moi, je m'étais intéressé aux légumineuses. Et en fait, ce sont des protéines végétales, bien entendu, Jacques, hein, qui rassasient. Et là, je dois dire que moi, j'avais lu dans le livre, en fait, et je m'étais renseigné, bien entendu, en lisant d'autres publications, que les légumineuses étaient en fait un apport tout à fait original, intéressant et constructif pour les gens qui ne souhaitent pas manger de protéines autres et souhaite être rassasié, donc éviter d'avoir cette compulsion alimentaire en fait, qui nous gêne. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, les protéines, les légumineuses, les légumes secs, ce sont les lentilles, les pois chiches, les flageolets, les haricots rouges, haricots blancs, haricots noirs, sont riches en protéines. Ce sont les aliments végétaux les plus riches en protéines. Ils sont rassasiants parce qu'ils ont également des glucides et des fibres, mais il leur manque la méthionine. Donc, ils ont un acide aminé qui leur manque, ce qui fait qu'ils ne sont pas capables tout seuls de renouveler nos cellules, parce que chaque jour, nous perdons des cellules à tous les niveaux, au niveau des muscles, au niveau du cœur, au niveau du rein. Nous avons besoin de reconstruire des nouvelles cellules. Si on n'a pas les bonnes protéines, si on n'a pas les bons acides aminés, en fait, on va moins bien reconstruire. Donc, si on a un plat de lentilles avec un œuf ou quelques morceaux de fromage, ça suffit. Et ça sera mieux avec un œuf ou du fromage, éventuellement avec des produits d'origine céréalière, du style lentilles, riz, comme on fait en Inde, ou du style semoule pois chiche, comme dans le Maghreb, ou du style maïs et haricots rouges, comme en Amérique du Sud. Mais même si vous prenez les Hindous, les Indiens d'Inde, donc, ils vont prendre des lentilles, du riz, pas de viande, mais il y a quand même un yaourt. Il y a quand même un produit d'origine animale. Ça sera encore mieux s'il y a un produit d'origine animale. Dans le couscous, vous avez beaucoup de semoule, un peu de pois chiche, légumes secs, légumineuses, mais il y a quand même… pas beaucoup, une petite boulette de viande ou un petit morceau de poisson. Mais il y a quand même ça, ou un petit yaourt, ou un peu défermenté là aussi.
Ouais.
Un peu de protéines animales, pas forcément de la viande. Ça peut être un peu de poisson, ça peut être un petit morceau de poulet, ça peut être quelques morceaux de jambon, ça peut être un œuf. C'est quand même encore mieux quand il y a des protéines animales. Pareil d'ailleurs au niveau du régime Mind pour le cerveau contre Alzheimer, il y a une dizaine d'aliments, dont les légumineuses, dont les aliments à feuilles foncées vertes, mais il y a également les volailles et les poissons qui interviennent, hein, qui sont protecteurs. Donc, nous sommes des omnivores, nous avons besoin avant tout d'aliments d'origine végétale, mais également d'un petit peu d'aliments d'origine animale, c'est encore mieux.
Mais c'est quoi? C'est 300 grammes, 400 grammes par semaine?
C'est combien que vous dites?
300, 400 grammes par semaine,
je dirais, pour le poisson, on a intérêt à prendre au moins 200 grammes de poisson par semaine, avec au moins 100 grammes de poisson gras, mm-hmm. comme le maquereau, les sardines, les harengs, le saumon. Et même les poissons en conserve, les poissons en conserve qui sont bon marché, qui sont pratiques, qui sont pauvres en mercure, tout au moins pour les sardines et le maquereau, parce que ce sont des petits poissons, c'est pratique. Et c'est riche en oméga 3, riche en vitamine D, riche en protéines. Donc ça, ce sont d'excellents aliments. Donc, je dirais au moins 200 grammes de poisson et au moins 2 à 3, enfin au moins 2 produits laitiers par jour. Et puis, un morceau de poulet 3-4 fois par semaine, ça serait minimum.
D'accord. Quid des compléments alimentaires?
Ah, alors ça, complément alimentaire, ça dépend desquels. Il n'y a pas un complément alimentaire, il y a des compléments alimentaires. Si on prend les oméga-3, on sait que les poissons riches en oméga-3, ce sont les bonnes graisses du poisson, protègent le cœur. En revanche, quand on a fait des études avec des pilules d'oméga-3 contre un placebo, pour voir si les oméga-3 en pilule avaient un effet, on est très déçus, il n'y a aucun effet. Je ne sais pas si Patrick confirmera en tant que
exactement.
Parce que lui, c'est ça. Donc, l'aliment a une complexité d'éléments qu'on connaît mal, qu'on ne maîtrise pas totalement, qu'on ne peut pas retrouver dans une pilule. Donc, la pilule ne remplace pas les aliments. En revanche, certains compléments alimentaires sont intéressants. Une femme qui aurait des règles abondantes, donc qui a perdu fer par ses règles, qui mange peu de viande parce qu'elle n'aime pas tellement ça, eh bien, elle aura peut-être intérêt à prendre du fer en complément alimentaire à certains moments de sa vie pour éviter les carences. La femme enceinte aura besoin, enfin, la femme qui veut un enfant, du moins, aura besoin de prendre de la vitamine B9 ou de l'acide folique, des folates, avant une grossesse. La personne âgée qui a des problèmes au niveau de l'estomac pour de la digestion aura peut-être besoin de vitamine B12. Vous voyez, il y a des compléments alimentaires qui ponctuellement sont intéressants. La personne qui n'aime pas les produits laitiers, eh bien, il aura intérêt à prendre du calcium en comprimé. Mais le mieux, c'est quand même dans les aliments, les nutriments, c'est quand même des aliments sont mieux. Ils sont plus bénéfiques pour la santé.
D'accord. Vous parlez beaucoup du régime japonais et des effets protecteurs du thé vert.
Oui, c'est vrai.
Alors moi, je suis une amatrice de thé.
Il n'est pas protecteur pour le cerveau, parce qu'il mange également très salé, mais il est protecteur pour le cœur, parce qu'il est riche en poissons, parce qu'il est riche en légumes, parce qu'il y a également les oméga-3 des poissons. Et donc, c'est un alimentaire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de graisse animale, il est également protecteur, oui.
Alors, l'eau, vous insistez aussi sur la nécessité de boire de l'eau. C'est vrai que les gens, enfin, moi, je vois, j'essaie de penser à boire de l'eau, parce que c'est vrai qu'on dit, alors dites-moi si c'est vrai, quand on a soif, quand on boit de l'eau, quand on a soif, c'est déjà trop tard.
Non, ça, c'est ce qu'on dit pour les personnes âgées.
D'accord.
Mais en fait, quand on a soif, on a intérêt à boire. On a intérêt à boire au moins 1 litre par jour. Mais tout compris, ça peut être du thé, de la tisane, du café. Éviter les boissons sucrées, mais à boire au moins 1 litre par jour, si possible 1,5 litre. Également, ça intervient au niveau du rein. Ça intervient pour réduire les risques de calcul du rein. C'est important pour renouveler l'eau dans nos cellules. Et les Américains ont montré une étude, je crois que c'est l'équipe de Willett qui avait fait ça, qui est dans l'American Journal of Epidemiology, que le fait de boire de l'eau réduisait les risques d'infarctus, sans doute, ça sera intéressant de demander son avis à Patrick Assiag, sans doute parce que du coup, quand on est absent de l'eau, il y a de l'eau qui rentre dans le sang, et pendant un certain temps, il y a une certaine hémodilution. Et cette hémodilution concourt à ce que les plaquettes qui forment des thromboses dans nos artères, soient moins proches l'une des autres, donc il y a un plus faible risque de thrombose. Si vous buvez moins d'eau, très peu d'eau, vous allez avoir, au contraire, et si vous buvez des sodas, c'est encore pire, vous allez avoir une hyperconcentration, une hyperosmolarité, et du coup, les plaquettes vont être plus proches les unes des autres, et de ce fait, il y aura plus de risque de thrombose. Donc, effectivement, le fait de boire, mais en France, en général, on boit assez d'eau. Ce qui est dramatique, c'est en Amérique. Vous savez que un tiers, je crois, de 80% des enfants américains ne boivent jamais d'eau plate. C'est pas aberrant.
Hein. C'est l'obésité. Hein. C'est l'obésité.
Là. Des sucreries, des soda light. Et ça, c'est très mauvais.
Ouais. 40% d'obésité aux États-Unis, 25% en France.
Il y a un chiffre en croissance en plus. Hein.
Ah ouais, 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 ouais. Jacques vient de le dire en fait. Hein. 40% d'obésité aux États-Unis, on est à 25% en France à peu près. Ouais. Incroyable. Incroyable.
Quels sont les aliments à éviter absolument? Les aliments à bannir qu'il faut éviter?
Moi, je dirais qu'il n'y en a pas à bannir.
Non.
Il y en a qui sont particulièrement mauvais, il n'y en a pas à bannir. Alors moi, je vais vous donner une petite liste et puis je crois que Patrick va également compléter par rapport à son expérience. Je pense qu'il faudrait bannir, enfin, éviter les boissons sucrées, sûrement l'excès d'alcool, ça c'est peut-être la première chose, les boissons sucrées, modérer les viandes transformées, c'est-à-dire tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est saucisse, tout ce qui est jambon, tout ça en petite quantité, oui, mais il vaut mieux des aliments peu transformés. Éviter et modérer certains poissons gras qui sont des comme l'espadon parce qu'ils sont plus riches en mercure. On préfère les petits poissons comme maquereau, le thon jarmon, le saumon qui n'est pas un gros poisson, ou les sardines. Éviter l'excès de pâtisserie. Un peu de pâtisserie, c'est très bien. Éviter les excès. Pareil pour les biscuits. Le chocolat. Alors, le chocolat est protecteur. C'est très, 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 très réjouissant. En fait, le chocolat noir est protecteur. Un des grands pourvoyeurs d'obésité, un des grands pourvoyeurs de maladies cardiaques, ce sont les boissons sucrées. Vous savez que, vous savez peut-être pas, au Mexique, si je me rappelle bien, il y a à peu près 30 ou 40% des décès chez les personnes de moins de 40 ans est lié au soda.
Bien sûr.
C'est énorme. 40% des gens qui meurent au Mexique, des adultes jeunes, meurent à cause des sodas, à cause de l'obésité, du diabète lié au soda et des maladies cardiaques. Je ne sais pas si Patrick, toi, tu as.
Oui, parce que tu pour rebondir un peu sur ce que dit Jacques, en fait, le problème, si vous voulez, des patients et la crainte des patients, c'est à la fois de faire un infarctus du myocarde, mais surtout l'accident vasculaire cérébral. Et là, moi, je m'en rends compte. Autant, lorsque je me suis installé, j'avais beaucoup d'infarctus et peu d'accidents vasculaires cérébraux. Et là, maintenant, j'avance en âge et j'avance en installation. Et je vois de plus en plus de patients post-AVC qui ont fait un AVC et de moins en moins de patients qui, heureusement, font un infarctus du myocarde. Et pourquoi? Et pourquoi ça s'explique? Parce qu'actuellement, il y a une telle technologie au niveau cardiovasculaire qu'on arrive, si vous voulez, à traiter assez précocement les patients qui font un infarctus. C'est-à-dire que grâce à l'information et à la formation, les patients, lorsqu'ils ont une grosse douleur, ils appellent le 15 immédiatement. Ce qui leur permet d'arriver très rapidement en service de soins intensifs de cardiologie où le diagnostic a déjà été fait par le SAMU, je ne vous cache pas. Donc, en fait, la douleur thoracique, le SAMU fait le diagnostic, ils arrivent immédiatement dans les 4 à 6 heures qui ont suivi l'infarctus en salle de soins de cathétérisme. Ils bénéficient d'une coronarographie en urgence où on voit le rétrécissement, la sténose très importante qui bénéficie d'un cathéter avec un ballonnet et un stent. Et du coup, si vous voulez, on arrive à traiter l'infarctus de façon manu militari, si vous voulez, mais de façon précoce. Ce qui fait qu'en fait, ces patients ne vont pas faire le gros infarctus, tel qu'on le faisait il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Ils vont limiter, si vous voulez, la nécrose, entre guillemets. L'infarctus, on l'appelle la nécrose. Et du coup, le pronostic va être très bon. En revanche, ces patients-là vont avancer en âge et petit à petit, comme l'infarctus du myocarde, on va dire, c'est entre 40 et 60 ans, et l'accident vasculaire cérébral, on va dire, entre 60, 70 et 80 ans. Ces patients-là vont être très bien traités par leur médecin traitant et leur cardiologue et leur endocrino, nutritionniste, etc., parce qu'ils auront les bons médicaments. Ils auront été traités à temps précocement avec les bons médicaments. Ils vont avancer en âge. Et du coup, si vous voulez, le patient qui a fait un infarctus et dont l'infarctus a été bien limité parce qu'il est arrivé précocement, il a eu le bon traitement au bon moment dans la bonne équipe, il est sorti avec les bons médicaments. En revanche, il va avancer en âge et malheureusement, à la faveur d'un problème de thrombose cérébrale, cette fois-ci-là, hein, plus au niveau du cœur, il va faire ce qu'on appelle, nous, l'accident vasculaire cérébral. S'il n'a pas la chance d'avoir ce qu'on appelle, nous, des signes précurseurs, qui sont l'accident ischémique transitoire qui précède l'infarctus du myocarde, vous voyez, l'accident vasculaire cérébral, pardon. Donc, vous voyez, on est dans deux phases, en fait. La phase, on va dire, 40-60, c'est l'infarctus du myocarde. Et on va dire, schématiquement, la phase 70-85-90, quand on arrive à 90, c'est l'accident vasculaire cérébral. Donc, on observe actuellement une sorte de complète transformation de l'urgence cérébrovasculaire qui est beaucoup plus importante que le poids de l'infarctus du myocarde, heureusement, parce qu'on a une technologie qui est, on va dire, sûre, et surtout avec une information des patients qui ont été suffisamment informés qu'il faut, dès qu'on a la grosse douleur, qui sert au niveau de la poitrine, surtout si on a les quatre facteurs de risque que vous connaissez, que sont 1, le tabac, 2, le diabète, 3, l'hypertension, 4, le cholestérol. Si vous avez malheureusement deux de ces facteurs de risque et qu'il y a un antécédent familial d'infarctus du myocarde, vous risquez en effet de faire l'infarctus. Après, quand on arrive à la période beaucoup plus âgée, c'est l'accident vasculaire cérébral, dont on connaît malheureusement les séquelles. Hein, c'est surtout le handicap, avec bien entendu tout ce qui est hémiplégie, séquelles, etc. Donc, on a deux phases, si vous voulez, la phase précoce et la phase un peu tardive de la maladie cardiovasculaire.
Alors, ce qu'on découvre aussi dans votre livre, enfin, je pense qu'on a, voilà, dans nos familles, on peut avoir les uns et les autres des amis, de la famille qui ont eu des accidents cardiaques et à qui on demande effectivement de se réinventer, de revoir leur hygiène de vie. Donc, il y a l'alimentation, mais il y a aussi l'activité physique.
Mmh, voilà. Vous touchez le point parce qu'avec Jacques, on en a beaucoup, beaucoup discuté. En fait, on souhaitait, lorsqu'on a discuté, on s'est entretenu avec Jacques, se faire une sorte de, comment dire, de message subliminaire, mais qui porte, c'est l'alimentation équilibrée, l'activité physique. L'alimentation équilibrée, l'activité physique. C'est pour ça qu'avec Jacques, comme je travaillais avec lui, je proposais de faire l'alimentation équilibrée et moi de faire en fait l'activité physique, mais en fait, Jacques souhaitait qu'on fasse plus que l'activité physique, en fait, et j'ai fait donc, on va dire, le cœur en général et l'activité physique. Mais au départ, en fait, c'était alimentation équilibrée, activité physique. Et c'est vrai, et là, vous avez tout à fait raison, et Jacques pourra me le confirmer également dans son expérience, c'est qu'on arrive, si vous voulez, à un stade où on a des patients qui ont souvent du surpoids, et souvent des patientes, en fait. Deux, des patients qui sont relativement bien traités, voire bien traités par les médicaments, et qui ont donc, un, ce problème de poids, et deux, ce problème d'inactivité physique ou de sédentarité. Et on sait que pour toutes les maladies chroniques, l'activité physique marche, aussi bien pour le cœur que pour le cancer et les autres maladies, les maladies rhumatismales également, et les autres maladies, le diabète, etc. L'activité physique, si vous voulez, c'est le support. Chez le diabétique, par exemple, il sera très, très bien traité par les médicaments, dont le chef de file actuellement la metformine. Mais s'il perd du poids et s'il a une activité physique, son espérance de vie sera augmentée. Donc, en fait, avec Jacques, on s'était dit alimentation équilibrée, activité physique, tout en racontant l'histoire du cœur avec les quatre chapitres que je vous ai proposés.
Oui, vous voyez, si on prend l'exemple, par exemple, des personnes obèses, Il est bien connu que quand on est obèse, les personnes obèses, malheureusement, ont plus de risques cardiaques, ont plus de risques d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral, de diabète, d'hypertension, notamment quand la graisse touche le ventre. Les hanches des femmes, ou parfois ce sont des hommes qui ont des hanches larges, ça, c'est pas dangereux pour le cœur. C'est vraiment la bedaine qui est dangereuse. Eh bien, les Américains ont bien démontré et ont créé un concept qu'ils appellent fat and fit. Ça veut dire gras, mais en forme. La personne qui est obèse, mais qui bouge beaucoup, qui marche beaucoup, qui fait du sport, qui a un entraînement régulier, va avoir un risque cardiovasculaire pratiquement identique à une personne mince. Et en tout cas, plus bas, il y aura moins de risque cardiaque que la personne qui est mince, qui ne bouge pas. Donc, l'activité physique a un rôle majeur, en sachant qu'il faut l'adapter à chacun, il faut démarrer progressivement. On n'a pas forcément besoin de faire beaucoup. Déjà, le niveau optimal est pratiquement obtenu pour 3-4 heures de sport intense, c'est une demi-heure par semaine, une demi-heure par jour, ou alors, ce qui revient à peu près au même, une heure de marche active rapide par jour, ça fait 5 km. Nous aurions intérêt à marcher au moins 5 km par jour, ou 10 km de vélo, ça revient à peu près au même, hein, ou faire une demi-heure de sport intense chaque jour. Il y a vraiment un rôle majeur. Et comme l'a très bien dit Patrick, ça intervient au niveau de la prévention du cancer, au niveau du cancer de la prostate, mm-hmm. cancer du sein notamment, cancer du côlon, et même au niveau d'Alzheimer. Donc vraiment l'activité physique, sportive ou quotidienne, si vous bougez beaucoup dans votre métier, vous n'avez pas forcément besoin de faire en plus du sport, vous pouvez en faire.
Bien sûr.
Et c'est pas forcé. Si vous prenez le vélo tous les jours dans Paris ou ailleurs pour aller bosser et que ça vous prend trois quarts d'heure, une heure tous les jours, faites du sport si vous voulez, mais c'est moins important que si vous êtes sédentaire. De même, on a intérêt, si vous êtes sur l'ordinateur ou à travailler, à toutes les heures, toutes les deux heures, vous lever, faire quelques pas. C'est parce que il faut éviter également de rester pendant 5-6 heures de suite, toujours assis ou couché.
Enfin,
couché toute la nuit, mais toujours assis, ce n'est pas très bon pour les veines ni pour le cœur. C'est bien de se lever régulièrement, même quand on travaille. C'est bon pour les yeux aussi, pour se déshabituer de l'écran et regarder au loin pour éviter des problèmes de convergence en fait, par la suite.
Pourquoi vous vous êtes associés tous les deux pour écrire ce livre? Quel était l'objectif?
Jacques, vas-y, moi je te donnerai ma version.
En fait, j'avais eu il y a 10 ans, j'ai même signé un contrat avec Cody Jacob pour écrire un livre sur le cholestérol et le cœur. Et puis, je m'étais dit, je n'ai pas le temps, c'est trop vaste, j'ai beaucoup de boulot en consultation, je veux avoir également ma vie personnelle, donc je n'ai pas donné suite. Et puis, Patrick est venu me voir m'a appelé, puis ensuite on s'est vu il y a à peu près maintenant un an et demi, en disant, voilà, j'aimerais écrire avec d'autres spécialistes un livre sur les problèmes cardiovasculaires, la prévention cardiovasculaire pour le grand public. Eh bien, je me suis dit, ça m'obligera, comme ce ne serait pas cool pour moi, ce serait également pour Patrick, je me suis dit, ça m'obligera à bosser, alors que sinon, je me dis, j'ai plus envie de faire la biographie, etc. Du coup, on a réfléchi sur le plan. On a parlé avec notre éditeur, Odie Jacob, et avec Caroline Roland, qui est la personne qui s'est beaucoup occupée également du livre chez Odie Jacob. Et donc, on a préparé le plan et l'écriture. Vous savez, on est tous les deux des médecins et des scientifiques, et nous avons lu chacun à peu près 300 références scientifiques pour écrire ce bouquin, parce qu'on voulait vraiment avoir des références scientifiques fiables, récentes, et qui repose sur du vrai, et pas seulement des grandes idées qui disent « ça c'est très bon, c'est très mauvais ». Mais chaque lecteur peut, s'il le souhaite, aller à la source de l'information, ou chaque journaliste, ou lire l'article duquel on dit que tel aliment est préférable à tel autre, que tel aliment est dangereux, etc. Tout ça est argumenté, documenté, pour être crédible et surtout pour être fiable, et pour être utile pour les gens.
Moi, j'ai une version strictement identique, hein, je vous rassure.
C'est juste... Mais l'initiative est celle de Patrick Assia.
C'est gentil. Non, c'est gentil. Et moi, je suis ravi du résultat. Hein. Bon, ce n'est pas pour nous féliciter, mais je suis ravi du résultat parce que je ne pensais pas qu'on arrivait quasiment à 500 pages. J'ai vu le livre, là, je l'ai à côté de moi, quasiment 500 pages. Et je me suis dit, comment on est arrivé à faire 400, on arrive à 450 ou 445, je ne sais pas. Mais quasiment 500 pages. Entre l'alimentation et telle que l'a fait Jacques de façon très experte, et puis le cœur. Alors, le cœur, moi, je sais pas, vous voyez, le cœur, on l'a mis en plusieurs chapitres. Un, le cœur, artère et veine, donc c'est l'initiation. Ensuite, le chapitre sur les facteurs de risque, donc les quatre gros facteurs de risque dont je vous ai parlé. Après, ça a été les complications du cœur, complications cardiovasculaires, et après, les liaisons dangereuses. Alors, qu'est-ce que vous appelez liaison dangereuse? C'est cœur et stress, cœur et travail, cœur et sommeil. Cœur et sommeil, très intéressant, le cœur et sommeil. Il y a plein de choses à l'intérieur, hein, pour savoir quelle est la durée de sommeil idéale, comment faire en sorte que, etc. Cœur et femme, cœur et sexe. Voilà. Tout ça, en fait, ce sont des liaisons qui sont un petit peu dangereuses. Pourquoi? Et encore, on n'a pas évoqué, hein, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on a pu faire, hein, notamment cœur et cancer, en fait. Hein. Parce que c'est très amusant, ça sera peut-être l'occasion d'un prochain livre, Jacques, Cœur et cancer. Parce que finalement, on se rend compte que le cœur était au centre, si vous voulez, de l'humain, entre guillemets, et que le cœur est en quelque sorte, si vous voulez, le patron de l'organisme. Le patron de l'organisme, et qui permet de réguler, en fait, le cerveau, le foie, l'intestin, etc. Et l'aorte, bien entendu, parce qu'à partir du cœur, par l'aorte, et quand vous savez, bien entendu, qu'on parle de dissection, de rupture d'aorte ou d'anévrisme de l'aorte, le pronostic est vraiment très réservé, très réservé. Donc, en fait, le cœur, l'aorte, si vous voulez, vascularise tout l'organisme. Et quand on a un problème cardiaque ou un problème d'aorte, si vous voulez, qui est ce gros vaisseau qui part du cœur et qui va irriguer tout l'organisme, même le cerveau, donc on se rend compte que, bien entendu, il faut protéger son cœur. Et lorsque nos citoyens vont lire le livre, ils auront beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments pour protéger son cœur et vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Parce que l'objectif de ce livre, c'est de permettre à nos lecteurs d'acquérir quelques réflexes. Je dirais quelques réflexes, parce que bien entendu, on ne peut pas, les 400 pages, se concentrer sur les 400 pages. Mais ils peuvent le lire de façon, on va dire, épisodique, prendre un chapitre et le laisser, prendre un autre chapitre et le laisser également, et faire en sorte qu'il puisse y avoir des messages. Parce que lorsque Jacques m'a interrogé, ben, je lui ai dit que voilà, chaque chapitre va être conçu de la même manière. C'est-à-dire, un, on se pose des questions. Deux, il y a deux, trois observations à partir de mes patients du cabinet. Il y a le cœur du texte. Et après, il y a que faut-il retenir, vous voyez. Et tous les chapitres que j'ai faits, il y a une vingtaine de chapitres à peu près, tous sont conçus de la même manière. C'est-à-dire pratico-pratique pour que le patient, entre guillemets, le citoyen, puisse acquérir des notions de base pour lui permettre justement de prévenir tout problème cardiovasculaire.
Et d'ailleurs, vous ne faites pas l'économie de l'immunité, notamment le virus.
Pardon, le ?
L'immunité face au virus.
Oui, ah, on a parlé de Covid.
Ah oui, Covid, oui, il y a un chapitre sur le Covid.
Il y a un chapitre sur le Covid, sur la Covid. Mais,
La Covid.
Ce n'est pas le seul virus, je veux dire, qui existe. Il y en a plein d'autres qu'on contacte. Donc, vous avez un chapitre dessus, parce qu'aujourd'hui, c'est le virus, effectivement, qui fait beaucoup parler. Qu'est-ce que vous aimeriez dire là-dessus ?
Sur la Covid, c'est... Alors, dire ce que j'ai mis, en fait, et c'est ce qu'on... Parce que sur la Covid, on apprend tous les jours. Au départ, on ne savait pas ce que c'est. Maintenant, on ne sait toujours pas ce que c'est. Mais on arrive à limiter les dégâts actuellement. Vous voyez les difficultés du gouvernement, en fait, pour enrayer cette épidémie, en fait. Hein, c'est épouvantable, alors qu'il y a un conseil scientifique prestigieux, en fait. Hein. Tous les meilleurs virologues, tous les meilleurs épidémiologistes, tous les meilleurs infectiologues sont dans ce comité scientifique. Et pourtant, on a du mal à faire en sorte. Alors, c'est vrai que ce que j'ai mis... ce que j'ai, hein, c'était les notions vérifiées sur le plan scientifique qu'on pouvait apporter au grand public à l'instant T. À l'instant T, bien entendu, je souhaite bien vivement qu'avec Jacques, on puisse faire une suite à ce livre. À l'instant T plus 1 ou T plus 2, il y aura d'autres informations complémentaires qu'on pourra apporter, mais qui seront vérifiées scientifiquement.
Oui, vous parliez d'immunité. Effectivement, ce que j'ai... Ce qu'on a voulu dire, ce que j'ai voulu dire également à travers le Covid, c'est parler des relations entre nutrition et immunité, oui, qui sont fortes. Et en fait, on s'est rendu compte en faisant la bibliographie, en relisant les articles de différents chercheurs dans le domaine, que finalement, c'est la même alimentation qui protège le cœur, qui protège également, qui stimule l'immunité. C'est-à-dire une richesse en fruits et légumes, le fait de baisser l'inflammation, parce que dans le Covid, il y a beaucoup également d'inflammation excessive par les poissons gras, par les oméga-3, en fait, les noix, les poissons gras. Le fait d'avoir des antioxydants dans l'alimentation aussi, le fait donc toute l'alimentation saine, riche en fruits et légumes, avoir des protéines quand même pour ne pas avoir de carence en protéines pour fabriquer les anticorps, tout ça finalement c'est le régime méditerranéen, c'est le régime qui protège le cœur, qui protège également en partie, enfin qui protège, qui réduit les risques de Covid parce que ça stimule l'immunité. Donc l'alimentation saine intervient même à ce niveau-là. Ça n'empêche pas, bien sûr, ni la vaccination, ni les gestes barrières. Mais c'est un élément de plus pour nous protéger des infections, grippe, Covid ou autre.
Alors, c'est très intéressant ce que dit Jacques, parce que je ne vous cache pas que quand on parle d'infarctus ou d'accès vasculaire cérébral, on parle d'athérosclérose. Et qu'est-ce que c'est que l'athérosclérose? C'est le dépôt, si vous voulez, d'athéro au niveau des artères. En gros, c'est ça. Et cet athéro est fait de cholestérol, de calcium et d'autres substituts. Et quand Jacques dit que la prévention, entre guillemets, de la Covid ou des autres infections comporte les mêmes aliments que ce qu'on pourrait faire sur telle ou telle pathologie, eh ben, je peux vous dire qu'actuellement, il y a une théorie sur la cause de l'athérosclérose qui est, semble-t-il, très en faveur d'un problème d'infectiologie. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire qu'en fait, les aliments qui protégeraient le cœur serait les mêmes que les aliments qui protégeraient contre une infection virale ou autre. Et ça, c'est très important. Et il y a énormément de chercheurs qui sont actuellement sur la piste de l'infection ou de l'infectiologie pour expliquer l'athérosclérose. Et on est sur ce même registre, en fait, comme Jacques l'a bien dit, en fait. C'est intéressant.
D'ailleurs, aujourd'hui, les premières victimes du Covid, ce sont des gens, effectivement, qui sont diabétiques et qui ont des signes d'obésité.
Ce qu'on appelle, nous, des comorbidités, en fait. Comorbidité, c'est avoir plusieurs facteurs de risque ou plusieurs maladies, en fait.
C'est elles qui font les formes graves.
Ouais, malheureusement.
D'accord. Donc, en gros, avant les médicaments, parce que les médicaments, il est déjà trop tard, c'est d'abord bien manger et faire du sport.
Quand on prend des médicaments, il n'est pas trop tard. L'alimentation participe à la prévention. C'est effectivement une base importante pour tout le monde. En plus, ce sont des aliments qui sont également bénéfiques pour l'enfant, pour la croissance. Et c'est une alimentation saine, en fait, qu'on cherche à montrer de façon très pratique. Et il y a vraiment beaucoup de tableaux pratiques. Dans ce livre, il y a beaucoup d'éléments de choix possibles pour faire ses courses. Et puis, les médicaments, parfois, on en a besoin. Mais d'abord, parfois, c'est de façon temporaire. Et puis, à partir du moment où on est traité pour une hypertension, on peut vivre aussi longtemps que quelqu'un qui n'aurait pas d'hypertension. Il ne faut pas se dire que si on prend des médicaments, si on est né au stade du médicament, c'est fichu. Non, justement, pour que ce ne soit pas fichu, pour qu'on puisse vivre malgré une maladie qu'on découvre, il faut prendre ces médicaments. Rarement, mais parfois, on peut les diminuer ou les arrêter même. Par exemple, si on avait une obésité souvent, et qu'on maigrit beaucoup, on peut parfois arrêter les médicaments pour le diabète.
Bien sûr.
Mais les médicaments, c'est pas trop tard. Hein. C'est mieux d'arriver, de pouvoir les éviter, mais quand il faut les prendre, il faut les prendre.
D'accord. Alors, donc, vous dites que le diabète est une maladie qui est réversible. C'est pas irréversible.
Les diabètes liés à l'obésité, réversible. D'accord. Plus souvent, pas toujours, mais plus souvent. Si on maigrit, oui, ou partiellement réversible, ou parfois on peut diminuer le traitement.
Alors, une petite anecdote, en fait, sur mes patients en consultation, c'est que j'ai de plus en plus de patients âgés, voire très âgés. J'ai eu 2 centenaires dernièrement qui sont venus accompagnés par leur fille, et j'ai des patients 85, 90, 95, 97 ans. Et lorsqu'on les interroge, vous verrez que ces patients-là, souvent, n'ont pas beaucoup de médicaments, mais qu'ils ont tous eu une hygiène de vie qui était quasiment irréprochable et avec une alimentation qui est très bien équilibrée et un mode de vie qui leur permettant d'avoir une activité physique régulière adaptée. Et c'est ça peut-être le secret de indépendamment du régime prétois, comme l'a dit très très bien Jacques, parce qu'il y a énormément de gens, de centenaires. Il y a une étude, je pense, qui a été faite là-dessus, tu l'as cité dans le livre. Il y a 2-3 études qui ont été faites sur les régimes prétois et les crétois donc, qui vivent qui ont une longévité, les Japonais également, qui ont une longévité excessive. Pourquoi ? Parce que, il y a une alimentation qui est très équilibrée, voire suivie, quelquefois restreinte, on va dire, parce que plus on mange, bien entendu, plus on prend du poids. Et deuxièmement, ce sont des patients qui bougent. Et quand vous avez les deux choses, je pense que vous pouvez avoir une espérance de vie qui est, à mon avis, très agréable.
Eh bien, merci à vous deux. Merci.
Merci à vous.
Voilà, merci d'avoir partagé avec nous toutes ces bonnes pratiques pour prendre soin de notre cœur, de notre vitalité, de préserver nos forces de vie. Je rappelle le titre de votre livre « Prenez votre cœur à cœur » aux éditions Odile Jacob. Voilà, et puis écoutez, que vous souhaitez pour la suite.
Merci.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
À bientôt. Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Je vous rappelle le titre du livre des docteurs Jacques Fricker et Patrick Assiag, « Prenez votre cœur à cœur » aux éditions Odile Jacob. Je vous donne rendez-vous sur blooming.fr où vous trouverez la retranscription de cet entretien avec toutes les références. De mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt !